le tir et la vue!
Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode 61 de Sur Réception qui est, comme j'ai intitulé, le début d'une nouvelle ère parce que, ben, comme vous le savez, les fondateurs du Club École puis ceux qui étaient au podcast avant nous autres, Antonin, Johan, Victor et Jérémy vont terminer bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, viennent de finir leur bac de journaliste. Donc malheureusement, ils quittent le Club École et c'est nous, l'équipe de sous-réception en prolongation qui vont les remplacer pour ce podcast-là, qui est, je vous rappelle, le podcast 100% hockey du Club École. Ce soir, on va juste être nous quatre, moi, Philémon, Jacob et Nicolas. Thomas, malheureusement, ne pouvait pas être présent ce soir, mais ça va être quand même un bon épisode parce que c'est notre premier épisode à sous-réception. Donc, ça, je vais avoir de la misère à l'époque, je vous dis, là. J'ai l'habitude de dire sur-réception en prolongation, mais là, j'aurais pas choisi de dire sur-réception. Mais bref, les boys, comment ça va? Là?
Ça va très bien.
Ça va, écoutez. Aujourd'hui, on a un gros menu. On va parler du Canadien. Canadien qui est officiellement la pire équipe de la LNH. On va parler des séries éliminatoires. On va parler de Vegas aussi, parce que j'aimerais ça parler de Las Vegas aussi. C'est un autre bon dossier. Puis à la fin, on va parler de nos prix de l'année, quand on va expliquer ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va commencer avec Canadien-Montréal. Bon. Finalement, ben, comme vous le savez, les boys, Canadien-Montréal est la 32e équipe de la Ligue nationale de hockey. Devient la première équipe de la Ligue nationale de hockey à être 32e. Il faut quand même le dire, c'est un exploit. Il n'y a personne d'autre qui a fini 32e dans la LNH. Puis, grâce à ça, ben, ils ont 25% de chances d'obtenir le premier choix total. Donc, possiblement Shane Wright. Mais là, les boys, j'ai vraiment une question à vous poser. La question que j'aimerais vous poser, c'est, par exemple, OK, je sais que le Canadien a quand même 25% de chances d'avoir le premier choix. Mais si, par exemple, le Canadien n'obtient pas ce fameux premier choix total, mais qu'il obtient, je ne sais pas, le deuxième, le troisième, voire le quatrième choix, vous pensez que Canadien devrait prioriser qui? Je vais commencer avec toi, Jacob. Tu penses qu'il devrait prioriser qui? Autre que Shane Wright,
parce que comme vous le savez, les boys, moi, Shane Wright, je l'ai quand même haut dans mon estime. Je ne suis pas un de ceux qui pensent qu'il va flop à son arrivée dans la Ligue. Je pense que du côté des prospects, il faudrait regarder vers un Slavkovski qui est vraiment grand, gros bonhomme, un peu dans le moule de Anderson avec beaucoup plus de qualité offensive, là, mais c'est juste pour donner une petite comparaison. Puis sinon, là, du côté des défenseurs, un Kemmel qui est quand même assez imposant, très, très mobile là, au niveau de la défensive. Moi, j'ai peur qu'on aille vers un Logan Cooley du côté du Canadien qui, Cooley, dans les dernières semaines, monte vraiment dans le top 3. Là. J'ai vraiment peur qu'on le voit parce que, selon moi, c'est un joueur qui va avoir un impact dans la Ligue nationale, mais pas ce que les Canadiens ont besoin. Je vois vraiment un joueur qui est un peu trop petit, qui est pas assez imposant puis qui peut... Il ne peut pas carry une ligne à lui tout seul. Il faut vraiment qu'il soit avec des bons alliés. Donc, moi, j'aimerais mieux voir un Shane Wright ou un Slavkovski du côté du Canadien.
Ouais, ben, moi j'aime bien Nemec pour le Canadien Montréal à côté de la défense. Je trouve aussi que Slavkovski devrait être une priorité aussi pour le Canadien si malheureusement il n'obtient pas Shane Wright. Mais je suis quand même d'accord avec toi, Jacob, sur le fait que Slavkovski, c'est vraiment peut-être l'option numéro 2, peut-être, qui pourrait être envisagé pour le Canadien Montréal, parce qu'il faut se rappeler aussi aux Jeux Olympiques, il a vraiment très bien performé avec la Slovaquie, je crois. Mm-hmm. Puis, ouais. Oui, je sais que c'était quand même une compétition sans les joueurs de la LNH, mais quand même bien performé au niveau professionnel contre des joueurs qui sont de niveau professionnel.
C'est pas rien.
Il faut le faire. Là. T'es, surtout quand tu as 17-18 ans,
C'est la seule chose qui me fait peur dans son cas, c'est vraiment qu'il y a eu un flash au niveau des Jeux Olympiques. Puis après, il a continué sur cette lancée-là là, dans sa propre ligue, mais j'ai un peu peur qu'on l'ait monté un peu trop par rapport à cette performance-là, mais qui est quand même exceptionnelle. Là, je pense que c'était 7 buts en 7 matchs là, contre des gars de 35 ans, voire même. Là, fait que c'est quand même impressionnant.
Il s'en laisse pas imposer, hein? C'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, 218 livres, d'après les chiffres que j'ai devant les yeux. C'est sûr qu'à la position de centre, en plus, ça serait quelque chose que toutes les équipes de la LNH voudraient avoir, là. Un joueur avec des bons instincts offensifs. Mais faut aussi dire que ça va lui prendre probablement un ou deux ans avant d'arriver avec l'équipe. Ce qui n'est pas grave dans le cas des Canadiens de Montréal. On n'a pas besoin de succès immédiat. Mais Shane Wright, l'impact serait beaucoup plus immédiat. Je pense dès l'année prochaine, Shane Wright pourrait avoir un impact non négligeable avec l'équipe du Canadien de Montréal. Surtout que le deuxième meilleur pointeur de l'équipe en ce moment a juste 40 points. Donc il manque un peu d'offensive chez Montréal cette année. Ça aurait dû venir un petit Shane Wright.
Ouais, les boys, juste avant, c'est moi qui avais le problème de micro, right? Parce que j'entendais un bruit, puis je me disais, genre, ouais, c'est ça, je viens de régler le problème, je vais retirer mes écouteurs, mais juste continuer à faire le podcast comme ça. Nick, sur acheter de quoi, vas-y, avant que je continue, là. Ah,
ben moi, ça a bugué un peu tantôt, j'ai un petit peu raté ce que vous avez dit au début, là. Mais moi, je pense que si Canadiens sont pas capables de mettre la main sur Shane Wright, parce que je pense que Shane Wright, c'est le gros poisson qu'il faut aller chercher. Là. Si on est premier, on n'a pas le choix de passer, de le prendre, je voulais dire. Mais sinon, Slafkovský, c'est-tu le même qui dit?
Slafkovský.
Ah, en tout cas, lui, là, je pense vraiment que ce serait le genre de joueur que le Canadien devrait essayer d'aller chercher, parce que, tu sais, faut que je dise, j'ai pas vu tous les joueurs jouer très souvent, mais lui, quand je l'ai vu jouer, j'ai vraiment trouvé qu'il était impressionnant, puis tu sais, c'est vraiment un gros bonhomme qui a des skills aussi. Fait que c'est pas juste tu sais, je veux pas rabaisser personne, mais tu sais, mettons un Josh Anderson, que c'est un gros bonhomme, tout ça, mais qui a pas tant de vision du jeu, tout ça. Slafkovský, j'ai de la misère à dire son nom, c'est incroyable. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui pourrait jouer potentiellement dans une couple d'années, mettons, avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, parce que je pense que sa vision du jeu permettrait plus de suivre le rythme des gars comme ça qu'un gars comme Anderson, mettons. Donc, évidemment, ça pourrait être un très bon joueur, mais il faut faire attention parce que là, on sait que, mettons, dans les ailes, il manque un peu de size et tout, mais on a vu les dernières fois qu'on a essayé de drafter selon nos besoins, ça n'a pas très bien fini, surtout quand tu draftes tôt comme ça, il faut vraiment que tu prennes le meilleur joueur, puis je pense que les équipes de repêchage doivent vraiment regarder ça de près, puis j'ai entendu parler en bien beaucoup d'un gars comme Cooley, fait que c'est sûr, c'est un autre choix. Je pense que Nemec, il faudrait peut-être faire attention. Encore là, je ne l'ai pas vu jouer souvent, mais je pense que j'irais plus pour un attaquant dans les hauts choix comme ça. Donc, si je devais dire un choix maintenant, après Shane Wright, moi, j'irais plus pour Slafkovský.
Mais moi, j'avais une question à poser à Philemon, parce que Philemon, tu nous as dit que toi, tu n'avais pas une haute estime pour Shane Wright, puis je voulais savoir pourquoi. Ouais.
Mais en fait, c'est pas que j'ai pas une haute estime pour Shane Wright. Ça va être un excellent joueur, ça va être un joueur d'impact dans la Ligue nationale de hockey. C'est juste que quand on compare au repêchage 2023, ça n'a rien à voir, là. On s'entend tous pour dire que si Connor Bedard, même Mishkov avait été disponible cette année, il aurait été les deux premiers choix, là. Shane Wright puis Bedard, c'est pas la même chose. Donc c'est juste à ce niveau-là, en tant que bon partisan des Canadiens, j'aurais préféré avoir le premier choix en 2023 que le premier choix en 2022.
Mais c'est sûr, faut pas partir avec l'idée que c'est que si on a Shane Wright, que c'est le prochain McDavid. Je pense que c'est plus, comme tu dis, un gars comme Bedard qui va se rapprocher de ça.
Ouais, c'est ça. Genre, Shane Wright, je le mettrais plus dans la catégorie des premiers choix, tu sais, comme Nico Hischier en 2017. Tu sais, des choix comme ça. Mais bon, c'est sûr qu'il a manqué une année complète de développement. Puis peut-être que ça a joué sur ses statistiques cette année. Hein. C'est des bonnes stats, mais c'est rien d'incroyable. 94 points en 63 matchs dans les juniors. C'est bon. Sans plus. Connor Bedard, il a des meilleures stats. Puis un
exact. C'est vraiment pas un joueur générationnel ou qui a les mêmes flashs offensifs puis les skills de Bedard. Je veux dire, Bedard, c'est des highlight reels là, quasiment à chaque game. C'est des gros buts tout le temps. C'est sûr que ça se fait pas ça, mais un gars comme Shane Wright, qui souvent comparé à Bergeron, ça peut quand même... c'est pas de refus. C'est sûr qu'il va pas te faire des gros buts, des flashs, mais quand même un très bon tir. Il est capable de ralentir le jeu, puis c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Puis je pense qu'il manque de tir là, chez le Canadien.
Ben, tu sais, moi, je pense que Shane Wright, peut-être qu'il serait un peu meilleur là, à long terme, mais je pense que ça serait un peu dans le même moule que Suzuki. Fait que je pense que ça serait... Sûr, ça serait intéressant d'avoir deux premiers centres qui sont aussi responsables défensivement. Donc, si on a la chance de le repêcher, je pense vraiment que ça serait un bon move. Puis, le Canadien n'auront pas le choix de le prendre si son premier. Mais quelque chose qui va être intéressant, puis là, c'est des si, parce que là, le Canadien n'a pas gagné la loterie, au moment où on se parle, du moins. Puis même si elle gagne, est-ce que c'est Shane Wright qui vont prendre? On ne sait pas, on va voir. Mais si le Canadien repêche Shane Wright, on a, je ne sais pas, c'est Phil ou Jack, en tout cas, un des deux, qui a parlé, qui a perdu une année de développement. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que il va falloir voir aussi, c'est bien beau le drafter, mais est-ce que, même si c'est le premier choix overall, est-ce qu'il va commencer l'année à Montréal? Je pense que ça va être de quoi qu'on va voir, surtout au camp d'entraînement, là, c'est, ça va être de la spéculation, mais tu sais, pas juste penser à, comme est-ce qu'il serait bon avec le Canadien? Oui, probablement, puis nous, comme l'équipe n'a pas beaucoup de profondeur, il jouerait sûrement deux premières lignes, peut-être sa troisième pour commencer l'année, tu sais, mais est-ce que pour le bien du jeune qui va être drafté, est-ce que ça va être mieux de le renvoyer à son équipe junior? Ça va être de quoi qui va être intéressant de voir aussi comme, quand on va être rendu là?
Mais honnêtement, je pense qu'au niveau de ceux qui sont ready pour la Ligue nationale, Shane Wright, c'est probablement celui-là qui est plus prêt là, au niveau physique, en fait. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un comme Logan Cooley qui est 5 pieds 11 puis qui est 175 livres, il est clairement pas prêt. Là. Ça peut arriver, là, des joueurs comme ça qui ont vraiment beaucoup de skills et ils se taillent une place dans la Ligue nationale, un peu comme Gaudreau. Là. Mais je pense que Wright est prêt, mais une année dans le junior, ça fait jamais mal à personne au niveau du développement. C'est plus au niveau de l'ego et de l'impatience des femmes.
Mm-hmm. Ouais, ben, surtout quand t'es le premier. Je dis surtout quand t'es le premier overall. Là, sûr, ça...
Non, c'est ça.
Mais en même temps aussi, c'est vraiment rare qu'une équipe qui obtient le premier choix total décide de ne pas faire jouer son premier choix dès sa première année d'éligibilité parce que il faut se dire, la dernière fois, je crois que c'était.
Mais il y a Owen Powers cette année.
Mais oui, mais.
Défenseur aussi.
Oui, mais défenseur aussi, mais je parle au niveau des attaquants. Au niveau des attaquants. Ça fait quand même un bout, là. Genre, faudrait demander au département de recherche.
Le département de recherche se met là-dessus.
Mais pour vrai, par choix, ça doit probablement être quasi jamais arrivé. Là. Un gars comme Power, c'était pas par choix le Buffalo. Je pense pas que ça s'est vraiment arrivé. Puis il leur laisse tout le temps au moins la chance de se prouver, là, ne serait-ce que seulement parce qu'ils ont été premiers choix. Là.
Non, clairement. Mais écoute, ça va être quand même un dossier qui va être intéressant à suivre du côté du Canadien. Il faut quand même les féliciter. Ils ont quand même 25% de choix, 25% de chance de gagner la loterie. Ils ont quand même fini officiellement 32e.
Les féliciter.
Non, mais c'était ça le but, me semble, non? C'était ça.
Mais le 55%, peut-être pas.
Le 55% pour le troisième choix, il fait peur.
Ouais,
c'est ça. Mais bref,
Imaginez si les Coyotes l'ont. Les Coyotes gagnent la loterie, à quel point le monde serait comme. Ben là, on aurait dû finir, toi. Je pense que les Canadiens, ils n'ont pas choisi. Je veux dire, au final, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Puis, on a parlé souvent, il a manqué des gros joueurs pendant une bonne partie de l'année. Puis, est-ce que ça l'explique tout? Probablement pas. Mais ça reste qu'il y a plusieurs choses qui ont fait que ça a mal été. Puis, on a parlé, je pense que c'est six mauvaises équipes qui sont. Si tu remets tout le monde en santé, tout le monde qui est là pour la plupart de l'année, ils finissent pas dernier. Là. Mais,
ils finissent à moitié.
Ils ne font pas les séries.
Mais je pense qu'il faut en profiter justement d'une année comme ça, que là, regarde, ça a mal été, les jeunes ils ont pris du millage, tout ça, puis là, tu as la chance de repêcher un très bon jeune qui va pouvoir être une des pierres angulaires de ton équipe pendant plusieurs années. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, c'est dommage, puis en plus, on arrive d'une finale à la Coupe Stanley, fait que ça paraît mal, mais je pense pas qu'il faut voir ça comme étant la fin du monde. Puis, tu sais, là, on a commencé à faire des échanges. On va comme rebuild un peu. J'ai l'impression qu'on va signer des agents libres aussi pour accélérer ça. Je pense pas que ça va être aussi pire qu'est-ce qu'on pense. Mais faut pas penser que l'année prochaine ou peut-être même dans 2 ans, on va être parmi les favoris. Il faut être réaliste, mais c'est pas aussi pire que ça. Là.
Non, mais on peut rêver quand même. Tu sais, dire que, genre, je sais pas moi, que les Canadiens obtiennent les deux premiers choix pour cette année et l'année prochaine, puis qu'ils obtiennent Shane Wright et Connor Bedard, là, on peut espérer.
Je comprends. Mais... Si tu veux pousser la rêverie, on peut dire que les Panthers vont finir avant-dernier. Donc, on va avoir Fedor et Michkov l'année prochaine.
Ah oui. Facile, les boys.
Mais juste un petit retour là, au département de recherche. Donc, le dernier joueur qui a été repêché premier au total puis qui n'a pas joué sa première année d'éligibilité, c'est Eric Johnson. Je ne veux pas être prophète de malheur pour Owen Power. On va lui souhaiter que sa carrière soit un peu plus belle que celle d'Eric Johnson. Il joue encore, hein? C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas. La carrière est montée de premier choix au total. Ouais,
mais premier choix total de 2006. Défenseur aussi. Ça aussi, c'est un autre fait important. Des deux derniers joueurs, en fait, les deux derniers premiers choix total qui n'ont pas joué la première année sont des défenseurs. Puis ça vient un peu expliquer le fait que souvent, ben, les défenseurs, ça prend un peu plus de temps dans le développement.
Mais je pense que, tu sais, comme on disait, il faut juste faire attention parce que dans le sens, oui, là, tout le monde va comparer, puis c'est ça notre job, c'est ça la job à tout le monde qui va essayer de checker ça de proche avec les statistiques, tout ça. Oh my God, OK, la dernière fois, c'est Rick Johnson, tout ça. Mais je pense que le Canadien, il faut qu'il soit réaliste aussi dans le sens que, comme on a dit, là, il a perdu une année de développement. Ça fait pas longtemps, c'est pas comme s'il l'avait perdu il y a 5 ans, puis tu sais, il y a eu le temps. Là, c'est comme pas l'année qui vient de passer, l'autre d'avant, là. Donc, il faut être réaliste. Puis s'ils sentent qu'il y en a de besoin, pas justement se dire « Ah, oh, ben c'est un choix, c'est un premier choix, fait qu'on va le garder quand même. » Puis, tu sais, au final, ça ne l'aidera ni lui ni l'organisation. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus que si on juge c'est ça qui est le mieux pour le jeune, ben tu le renvoies dans le junior. Puis regarde, il brûlera la ligue, c'est pas grave. Il va jouer l'année d'après juste encore plus près. Fait que, il n'y a qu'une partie, une brassée de la vache, je sais pas trop, mais... Parce que, fait que c'est ça, juste genre, je pense pas que ça soit négatif non plus. Puis, tu sais, dans le pire des cas, ça arrive vraiment à t'assurer que tes recruteurs, tout ça, ils passent du temps avec le jeune, tu sais, souvent pour lui rappeler que c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est pas parce qu'il commence pas dans LNH l'année prochaine, mettons, que sa carrière est finie loin de là.
Non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, ça reste à suivre, mais. Le Canadien a quand même 25% des chances, ils peuvent espérer, puis peut-être que Shane Rob va finalement aboutir à Montréal, puis jouer au Centre Bell l'année prochaine, ou peut-être dans deux ans, on ne sait jamais. Mais là, les boys, là, c'est le moment de décerner nos prix pour la saison régulière, ce qu'on appelle les prix de l'année. Puis je vais expliquer le concept aux auditeurs et aux gens qui nous écoutent, au Club École. Puis, dans le fond, les boys, je vais vous demander de prendre une surprise, une déception, puis votre moment fort de la saison. Puis je vais commencer avec toi, finalement.
Ah ouais, hein, tu commences avec moi.
Non, mais je peux commencer avec quelqu'un d'autre si tu veux pas commencer tout de suite. Là.
Je vais garder la surprise.
Oh, Nick, ton micro est...
Merci. Je t'ai genre voyant, il m'écoute pas en tout. ben, check, moi, je vais y aller en premier, puis on en a parlé un peu... de temps en temps, de ce joueur.
C'était sûr, c'était Huberdeau.
C'est sûr que tu vas dire Jonathan Huberdeau.
C'est incroyable, c'est historique. Mais... Jacob, t'as-tu continué? Qu'est-ce que. Oh, Nick,
ouais, ouais, moi, je
suis. I'm back. Hey, sérieux, je comprends pas ce qui s'est passé.
Mais vas-y, continue.
On a fait un petit pari sur qui t'allais nommer.
Ouais.
Ah, bon, ok. Ben, je vous ai pas entendu, fait que. Moi, le joueur que j'ai pris, moi, c'est Chris Kreider. Je pense que ce qu'il a fait, c'est quand même impressionnant. Tu sais, je veux dire, si on regarde sa progression, du moins en but surtout, là, comparé aux années d'avant, c'est vraiment phénoménal. Puis est-ce que c'est influencé par les gars qui jouent avec? Tu sais, ça peut être influencé par plusieurs choses. Puis on en a parlé, je pense pas qu'il va être capable de faire une autre saison aussi productive. Mais cette année, c'est la surprise en Ligue nationale. Puis écoutez, un joueur comme ça, on en a parlé un peu en parlant de Slavkovski. Je pense que c'est vraiment le type de joueur qu'il est rapide, il est gros, il frappe, il est capable de. Il a un très bon lancer, il est capable de se positionner, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment le genre de joueur que de plus en plus dans la Ligue nationale, ceux qui ont tout ce package-là sont vraiment, vraiment avantagés ces autres. Puis il en a profité cette année. Je veux dire, il joue avec Panarin et Zibanejad, qui eux aussi ont des très, très bonnes saisons. Donc, moi, je pense que si tu dois prendre la surprise dans la Ligue nationale, c'est lui cette année.
Ouais, c'est un bon choix. C'est un excellent choix aussi. C'est vrai que personne n'aurait cru que Chris Kreider allait terminer une saison avec plus de 50 buts. Là. Ça, c'est à 30 ans en plus. Ça, c'est une saison fantastique. Mais Nick, tu vas continuer aussi une déception. T'as-tu une déception? Puis un moment fort?
Écoute, je sais pas si c'est ça que Jack allait dire, je vais peut-être y voler, puis la déception, je vais rester proche de Montréal. Moi, je vais y aller avec Mike Hoffman. Puis, au-delà des statistiques... Bon, ben, sorry, Jack, avant ta face.
Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Mais j'avoue.
Mais tu sais, il y a plusieurs déceptions partout dans la Ligue nationale, là, je veux dire. Mais comme je pense que c'est lui vraiment que je m'attendais à ce qui arrive. Puis, tu sais, on sait un peu, il est comment Mike Hoffman. Là. C'est pas le joueur qui fait le moins de revirement au monde. C'est pas le joueur le plus fiable dans sa zone, tout ça. Mais ça reste que tu t'attendais à ce que, même à 5 contre 5, il se libère, il soit capable de prendre des bonnes shots au net, en power play, tu sais, son lancé sur réception. C'est vraiment ça qu'on attendait. Puis, c'est, on l'a pratiquement pas vu cette année. Puis là, oui, ça, il y a une partie aussi que l'avantage numérique du Canadien, il a été vraiment pas très bon. Il y a plusieurs joueurs qui ont été blessés autour de lui, lui-même et autour de lui. Fait que c'est sûr que tu ne reçois pas des passes tout le temps des meilleurs joueurs qui t'en donneraient. Mais ça reste qu'on l'a vu souvent, une passe qui arrive pour un one-timer, puis c'est comme s'il hésitait. Puis finalement, il garde la rondelle, il fait une passe, puis le jeu, ça va nulle part. Au lieu de juste prendre une bonne shot, on sait comment son tir, quand il prend bien, c'est vraiment un tir dévastateur. Puis j'ai été déçu à ce niveau-là, surtout que, tu sais, oui, à 5 contre 5, mais comme je dis depuis tantôt, là, en avantage numérique, c'est là qu'on l'attendait, c'est là qu'on s'attendait à ce qu'il fasse la différence. Puis il a tellement pas fait de différence que pendant un bon bout de la saison, il a même joué sur le deuxième avantage numérique, alors que c'est supposé être sa force. Donc, c'est ça. Pour l'ensemble de l'œuvre, j'ai été assez déçu de ce que j'ai vu de Mike Hoffman. La bonne nouvelle, si on veut, c'est qu'il reste deux saisons pour essayer de se rattraper, nous montrer qu'il est capable de beaucoup mieux. Mais ça va passer ou ça va casser dans son cas, je pense, là, parce que deux autres saisons, c'est comme cette année, c'était catastrophique à certains moments. Là. Pas toute la saison, mais à certains moments, c'était pas beau à voir. Mm-hmm.
Et puis ta surprise, pas ta surprise, je veux dire ton moment fort, parce que c'est comme ça que je veux qu'on dise toutes nos...
OK. Ben là... Ben, écoute, moi, je pense que c'est quand même une page d'histoire de la Ligue nationale assez importante et des Ducks d'Anaheim qui se tournent. Je pense que le moment fort, c'est que Ryan Getzlaff annonce sa retraite. T'sais, un joueur, il est rendu, je pense, à 37 ans. Et tu t'en attends un petit peu, mais vraiment, comme qu'il l'annonce et que ça soit officiel, tout ça, je pense que c'est un moment marquant. T'sais, dans les dernières années, c'est sûr qu'il est moins performant, mais si tu remontes là, 5 ans, 10 ans même, tout ça, il était vraiment dominant. T'sais, on se rappelle, en 2007, c'était une des pièces maîtresses de l'équipe pour gagner la Coupe Stanley, puis il n'était pas si vieux que ça encore. Donc, ça va faire différent de voir les Ducks sans et Corey Perry depuis quelques années, mais et Ryan Getzlaff maintenant. Donc, c'est vraiment une page d'histoire qui se tourne, puis... J'ai hâte de voir ce que les Ducks vont faire pour s'en remettre parce que, tu sais, on s'entend, c'est au-delà de ses statistiques, tout ça, c'était vraiment le meneur de cette équipe-là. Donc, ouais, mon moment marquant, c'est la retraite de Ryan Getzlaff.
C'est pour vrai, ça, c'est un moment qui était fort. J'ai failli le prendre, moi, mais j'ai décidé d'en prendre un autre. Peut-être qu'il va être mentionné par nos deux autres camarades.
Je pensais qu'il allait dire j'ai failli pleurer.
Non. Je suis pas émotionnel à ce point-là non plus. Mais Jacob, c'est quoi ta surprise, ta déception et ton moment fort?
Je vais commencer avec ma surprise parce que j'ai pas grand-chose à dire. Là. On en a parlé pendant quasiment toute la saison. Pour moi, c'est Shesterkin. Un gardien autant dominant, ça faisait un bout qu'on en avait vu à chaque année. C'est pas manquable. Là. Il y a toujours un gardien qui se lisse plus que les autres, mais cette année, il était particulièrement dominant. A égalisé ou battu certains records de Jacques Plante. Depuis Price, avec son année avec tous les trophées, on n'a pas vu un gardien qui était autant dominant puis autant athlétique, je trouve, dans sa manière de gauler. Je le trouve vraiment superbe à voir jouer. Puis on va se dire, les Rangers seraient peut-être pas où ils sont en ce moment sans les grosses performances de Shesterkin. J'ai vraiment hâte de voir là, comment il va se débrouiller en série. Puis j'espère pour lui ça va continuer son succès parce que c'est quand même à ses débuts. Là, puis pour un goaler, on sait... jamais comment ça va se passer. On se rappelle le Carter Hart il y a de ça un an ou deux ans, là, puis maintenant qu'il n'est vraiment pas le même gardien. Ça fait que c'est ça pour ma grosse surprise.
Hey Jack, juste avant que tu continues sur ta déception, là, juste à titre informatif, que les meilleurs gardiens selon les joueurs de la LNH ont été révélés. La question c'était si vous avez un gardien à choisir pour un match, lequel vous prenez dans votre équipe. Puis Shesterkin n'est pas dans le top 3. Puis en deuxième position, on trouve Carey Price.
Non, c'est certain, non, mais moi non plus, je ne choisirais pas vu qu'il est au début de sa carrière. C'est juste, on n'a pas vu un assez grand échantillon, puis on se demande encore s'il va choquer.
J'allais juste dire, pour rajouter à ça une deuxième parenthèse, j'ai vu justement, pas longtemps avant qu'on embarque sur le podcast, que Antoine Roussel, il a confirmé que du moins pour les Coyotes, eux, ils l'ont rempli avant, genre en septembre, comme avant le début de la saison. Je ne sais pas si c'est le même pour toutes les équipes, mais si c'est le cas, ça peut expliquer pourquoi Shesterkin n'est pas là.
Exact. Okay. Mais même à ça, je ne penserais pas que Shesterkin serait choisi dans le sens que on ne sait jamais. Là, il bosse souvent sur l'entièreté de la carrière. Puis c'est un peu normal. Mais dans les années à suivre, s'il continue comme ça, c'est certain qu'il est dans le top 3. Passons maintenant. Ma déception, c'est clairement Eichel. Je ne veux pas m'acharner sur un joueur là, qui a tenu une longue blessure, puis une opération, puis un long rétablissement. Oui, avec son arrivée avec Vegas, ils ont fait tout plein de folies pour essayer de l'avoir. Ils ont essayé de faire fitter le cap space. Non seulement il les a mis dans le trouble, il a mis les Knights dans le trouble au niveau du cap space, puis on l'a vu là, tout ce qui est arrivé avec le trade de Dadonov, là. On peut dire que c'est un peu de la faute de Eichel, toutes ces affaires-là. Puis non seulement sur la glace, oui, il a fait des points, 22 points en 33 games, très respectable, il n'y a rien à dire, il arrivait dans un nouvel environnement après une blessure. Mais ma déception, c'est les 6 dernières games des Knights, seulement un point pour Eichel. Pour la première fois de sa carrière, il pouvait jouer des matchs importants, pouvait comme subir de la pression puis voir comment il réagissait. Pour moi, clairement mal réagi. Là, tous ses points étaient avant ces matchs-là, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé avec les Knights. Ils font pas les séries. Je trouve ça vraiment décevant. Je pense qu'on est tous d'accord. 25 ans, Jack Eichel, c'est un joueur exceptionnel dans la Ligue nationale. Mais je sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer pour lui dans le futur là, s'il est pas capable de monter son jeu d'un cran dans les moments importants.
Non, clairement.
Puis, ça peut y amener une espèce de réputation aussi, là, je pense. Peut-être il reste encore un buffer. Vu que là, tu sais, il s'est blessé, tout ça. C'est une grosse blessure. D'après moi, il reste peut-être un buffer d'un an, peut-être deux, mais rendu à 27 ans, si tu n'as jamais encore fait les séries et tu es considéré comme un des très, très bons joueurs de la Ligue, on s'entend là. Avant, on peut dire l'excuse, OK, il n'y avait pas l'équipe pour. Mm-hmm. Là, cette année, il arrive en fin de saison, mais il y a l'équipe pour. Mais là, l'année prochaine, l'autre d'après, s'ils ne sont pas capables de faire les séries encore, là, je pense que ça va le suivre longtemps. Là.
Puis, il y a déjà une certaine réputation là, aussi, Eichel, là,
ouais,
pour ses jours avec Buffalo. Fait que je ne sais pas ce qui va arriver avec lui. Puis, pas déçu de ses performances en général, mais vraiment dans la fin de la saison. Puis, je pense que ça en dit long là, sur qui il est et ses performances hockey. Niveau moment, moi, ça fait pas trop longtemps, là, mais c'est quand Zegras a marqué contre les Coyotes il y a peu de temps. Un but là, vraiment spectaculaire. Je pense que c'était le Michigan ou un jeu en finesse. Puis on a vu toute la gang des Coyotes sauter dessus, sauter sur Troy Terry par après pour passer un message comme quoi ça passait pas dans la Ligue nationale, des steals comme ça, de la finesse comme ça. Moi, je pense que ça démarque vraiment là, un avant puis un après dans la Ligue nationale. Puis on voit que les jeunes commencent à pousser de plus en plus tôt et qu'ils font vraiment dans la dentelle, dans la finesse, qui sont moins les gros bonhommes. Fait que je pense que ça démarque un peu là, le passé puis le futur de la Ligue nationale.
Non, tu viens de faire tout un point, parce que c'est vrai que, en fait, moi j'adore ce que Trevor Zegras fait, puis je trouve que c'est vraiment important avec ça d'hockey de vendre sa ligue en général, puis peut-être d'essayer de promote le hockey, parce que c'est ça qui est un problème majeur au niveau de la LNH, c'est que c'est encore une ligue qui est assez conservatrice, puis que le problème, c'est qu'elle n'attire pas tant de monde que ça, malgré que, oui, c'est un sport d'hiver, mais pour se dire quand même, c'est un sport qui est professionnel aux États-Unis, était dans un gros environnement, un gros marché, puis tu as des difficultés parce qu'il y en a qui ont des vieilles mentalités qui datent d'il y a genre 30, 40, 50 ans. Puis je trouve ça important que tu viennes dire parce que ça vient vraiment prouver le présent puis un peu le passé, malgré que ces joueurs-là sont encore dans la ligne de hockey. Puis Antoine Roussel, il n'est pas vieux. Là. Puis il y en a plein là-dedans qui ne sont pas vieux dans l'équipe des cas de l'Arizona. Là. Bref, je suis vraiment content que tu aies parlé de ce moment-là, mais c'est pas mon moment, moi, mais
c'était mon moment.
C'était ton moment aussi?
C'était mon moment, puis Jack Eichel, c'était ma déception aussi. mais c'est pas grave, je me suis préparé des deuxièmes choix, là, fait que...
Ah, mais j'allais dire que je pouvais le faire, mais vas-y.
Non, je vais y aller.
J'ai une médaille d'argent.
Ben, pour ma surprise, cette année, je vais y aller avec le beau Matt Duchesne. Donc, il a joué 76 matchs, 42 buts, 42 passes, 84 points. Puis 42 buts, c'est à peu près ça qu'il avait marqué dans les trois dernières années combinées ensemble. Donc, je trouve ça assez impressionnant. L'année passée, 13 points en 34 matchs d'ailleurs. Je trouve ça assez impressionnant le rebond qu'il a fait, surtout du côté offensif. C'est un gars qui a Tout le monde pensait que sa carrière était terminée, en tout cas avec les Preds, puis que pour le reste de sa carrière, il allait jouer sur des troisièmes trios, il allait apporter un apport vraiment négligeable à son équipe. Finalement, il a rebondi, est devenu le deuxième meilleur attaquant de son équipe après Philip Forsberg. Puis surtout, ce qui est surprenant, d'après moi, c'est qu'il joue pour les Prédateurs. Il ne joue pas avec une machine offensive. Là. C'est pas comme s'il avait été envoyé en Floride, qu'il jouait avec les meilleurs joueurs du monde, puis qu'il pouvait se faire carry par tout le monde. C'est lui le pilier offensif de son trio et de son équipe. Donc, c'est ma surprise. Ma déception, c'est un ancien petit gars de Montréal, Jesperi Kotkaniemi, qui est payé 6,1 millions de dollars pour jouer 9 minutes par match. Mais bon, il confirme qu'il a retrouvé le plaisir du hockey en Caroline. Mais bon, hein, laissez-moi en douter un petit peu. Il a connu des séquences de 8 matchs sans points, seulement 26 points en 65 matchs. Il joue avec une équipe qui est bourrée de talent. C'est sûr qu'il joue pas avec Sébastien Aho. Il joue pas sur les deux premiers trios la majorité du temps. Mais quand même, c'est assez décevant. Là. Puis surtout qu'il a signé une prolongation de combien? 4,8 millions par année, si je ne me trompe pas.
Ouais, 8 ans, 4,8 ans, par année. Ouais,
c'est ça, je pense que ça va faire mal à long terme.
Je veux pas lui souhaiter du malheur ou peu importe, puis des mauvaises saisons pour le reste de la carrière, mais je sais pas pour vous, mais on dirait que ça fait quand même du bien de voir des stats comme ça.
Non, mais je pense sincèrement que c'est vraiment ce qui va, genre je réutilise la même expression de tantôt, là, mais c'est ça qui va faire que ça passe, ça casse avec lui. Parce qu'on a entendu beaucoup parler qu'il y a un certain ego, puis que des fois les coachs lui parlent, puis genre, oh, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, d'avoir une saison de même, de jouer sa quatrième ligne, même si t'es ultra bien payé, tu sais, on sait que c'est pour le sortir de Montréal, on ne pas de cachette, mais ça reste que, à partir de la saison prochaine, il payait pratiquement 5 millions par année là, pour 8 ans. Là. 5 millions, c'est je ne sais pas exactement, mais d'après moi, c'est un centre de deuxième ligne, pas mal. Ce n'est pas un centre de troisième ligne que tu payes 4,8 millions par année.
T'sais. Pour vrai, contrat-là, je le trouve gênant pour les deux parties. Ben, en fait, ce n'est pas gênant pour lui parce qu'il s'est garanti un gros salaire, mais de commit à un si jeune âge pour 8 ans à 4,1. Moi, pour moi, c'est dire à des fans pis tout, j'en ferai pas plus, je vais faire les points pour quelqu'un de 4,1 puis garde, je te prie jamais plus que ça. T'sais. Je crois pas en moi tant que ça, fait que je vais accepter un 8 ans à 4,1 millions puis je vais vivre avec les conséquences. Je sais pas, c'est ça de ça va.
Oh là là, Phil, t'as vraiment pogné une bonne déception pour vrai, une déception.
Ouais, je pense que.
Tu cites les réactions.
Mais je pense que les plus déçus, ça va toujours rester les Hurricanes dans l'histoire. Hein.
Mais c'est parce que, tu sais, on a parlé, là, si il est clos, là, genre, oui, ça va peut-être devenir un bon contrat, peut-être un très bon contrat si vraiment il fleurit comme du monde, là, mais tu sais, je veux dire, déjà en partant, t'as Sébastien Aho qui est le centre numéro un incontestable de cette équipe-là. Je pense pas que Keke a le potentiel de dépasser Aho. Fait que là, à partir de là, tu te dis, à moins que tu le sortes de sa position naturelle, comme ils ont déjà fait cette année, il part sur une deuxième ligne. Là. C'est le mieux qui peut aller dans cette équipe-là. Fait que là, quand tu le payes entre 4 et 5 millions, faut que tu produises. Là. Parce que si tu produis pas, tu t'en vas dans le line-up et on sait que Brindamo, il a pas de l'air d'avoir... désolé, mauvais jeu de mots. Mais il a pas de l'air d'avoir autant d'amour entre Keke et Brindamo. Fait que je pense que, à moins qu'ils se mettent à produire, c'est parce que, tu sais, Keke, on l'a vu à Montréal, puis on le voit jouer des fois en Caroline. C'est pas Mike Hoffman, mais c'est pas le gars qui travaille le plus fort en zone défensive, puis en échec avant. Puis, tu sais, son coup de patin, il est déficient un peu. Il a une bonne shot, il a une vision du jeu quand même assez bonne, mais tu sais, je veux dire, c'est pas exceptionnel, là, c'est pas un Crosby. Fait tu sais, Je sais pas si il se développe. C'est parce que moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment payé, moi, de ma vision. Là, à moins peut-être à l'an 8, quand le plafond va être à 100 millions, si c'est le cas. T'sais. Mais à part de ça, je pense qu'ils l'ont vraiment payé pour le mieux qu'il va pouvoir donner. Genre, il ne donnera jamais plus que ce contrat-là. Fait que le mieux qui va arriver, c'est qu'il va rentabiliser son contrat. Mais tu as vraiment comme 95% des chances qu'il n'atteigne pas ça et tu le surpayes tout son contrat.
Je comprends cette vision-là, mais c'est quand même 8 ans. Là. On dirait que, pour rajouter une couche sur ce que je disais tantôt, là, c'est quasiment, je vais signer à 4,1 millions, puis si l'équipe perd, ben, au moins je ne serai pas pointé du doigt. T'sais. Je sais pas si c'est moi qui est comme qui est dans sa cave et qui a jamais vu des contrats comme ça au hockey. Là. Mais je trouve que c'est. Je comprends pas.
Il est 4.1, tu dis?
Ouais, c'est France, c'est 8 ans 4.1, mais c'est peut-être.
Ça va, parce que on dirait dans ma tête 4.1 puis 4.8.
Non, c'est 4.8, me semble.
Okay, c'est peut-être plus ça qui va être 4.8.
Département. Mais vas-y, Phil, parce qu'il faut se dépêcher, là, au niveau de ton moment fort, est-ce que ton moment fort, on sait que
tu. Ouais, mais je veux juste finir un petit 15 secondes sur Kotkaniemi en disant que quand il a commencé, on comparait avec 4.82. On le comparait avec Alexander Barkov, qu'Alexander Barkov, c'est un autre Finlandais qui a mal commencé. Ben, il a pas mal commencé, là, mais il produisait pas beaucoup pendant ses deux premières saisons. Mais Barkov, à 20 ans, c'était 59 points en 66 matchs. Puis à 21 ans, c'était 52 points en 61 matchs. Fait que les comparaisons avec Barkov, on peut-tu arrêter, s'il vous plaît? Kotkaniemi, sa fenêtre d'éclosion est de plus en plus petite. Là.
Mais c'est parce que aussi, c'est qu'est-ce qui. Tu sais, on a vu des petit flash ici, là, surtout à Montréal, là, cette année, il y a, peut-être sa production est meilleure, mais dans le sens, comme les, on va dire, le niveau spectacle, tout ça, il n'est peut-être même pas aussi haut, là. Mais il n'y a rien démontré, à mon avis, à moi, qu'un jour il va exploser. T'sais, Barkov, moi je me rappelle à sa première année, oui, il produisait moins, comme Kotkaniemi avait fait à peu près, là, mais. Tu voyais comme la façon qu'il jouait. Il avait quand même un bon coup de patin. Il jouait bien défensivement. Il sortait des feintes vraiment incroyables. Puis, avec les années, c'était de mieux en mieux. Tandis que Kotkaniemi, à part le but contre les Panthers, je ne sais pas si vous vous rappelez lequel je parle, là, qui est comme Spoon Luongo. By the way, je suis là. C'est arrivé à la de moi, c'est vraiment sick. Mais à part de ça, je veux dire, je me rappelle pas avoir vu un jeu que tu es comme vraiment OK. C'est pas juste un gars mid-six. Là. Ça pourrait être un gars plus haut que ça. Tandis que Barkov, il y avait des jeux qui démontraient que il n'y avait pas nécessairement de points au final, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Là. Fait que moi, je trouve que c'est ça la différence. Puis je pense que le monde, ce qu'il espérait, c'est que oui, les points étaient sensiblement pareils, mais que le niveau d'implication tout ça, que Kanemi allait augmenter. Mais on a vu avec les années qui ont passé, il y avait une espèce de... Tu sais, on l'a vu un peu en série l'année passée. Il y a une espèce de je m'en foutisme comme, puis un peu comme si ça se passe pas comme je veux, ben vous allez le savoir. Tu sais, on se rappelle tout le fameux il a scoré, puis il a fait le 4 vers les estrades, tout ça. Comme, en tout cas, c'est peut-être personnel, mais j'ai un peu le... comme t'es qui pour commencer à essayer de faire la justice pour tout le monde? T'as pas mangé à la Ligue, t'es pas... Tu sais, je sais pas, là. Je sais pas ce que vous en pensez.
T'as 10 buts à ta meilleure saison, fait que pas trop de trous, là.
Mais tu sais, c'est assez révélateur là, d'être laissé de côté en, je pense, c'est match 4 ou 5 de la finale l'année passée. Je veux dire, t'as bien beau avoir un différent avec un joueur. C'était quand même un des meilleurs au niveau offensif. Là, le différent, il devait être gros en maudit. Là. Il devait avoir quelque chose d'assez important là, pour match 4, même match 5, soit laissé de côté.
Il n'a pas commencé les séries non plus, si je me rappelle bien. Ou il a, en tout cas, même en première ronde, il était sorti un bout.
Ouais, ben il avait pas commencé. Il avait pas joué au match numéro 1. Lui, Caulfield et je crois Romanov n'avaient pas commencé au premier match de la série contre Toronto.
C'est ça, je sais que le 4, c'était pour les 4 gars dans les estrades qui n'avaient pas joué avec lui. Mais tu sais, c'est parce que en série, surtout, là, oui, c'est sûr tu y vas plus avec les vétérans là, quand tu as le choix. T'sais, c'est sûr, je parle pas si t'as un gars qui est absolument phénoménal. Puis on peut revenir là-dessus, c'est sûr, mais moi, dans ma tête, l'année passée, de la façon qu'il jouait, Caulfield, je pense qu'il aurait dû commencer. Ça, c'est un autre débat. Mais ça reste que tu peux pas faire jouer tout le monde. C'est sûr que t'as des gars de trop. Puis que t'as un gars qui est comme à sa deuxième, troisième année dans NHL, puis qui vient, puis qui fait ça, puis il a passé comme la moitié de l'année à Laval. Genre, t'es. Je sais pas. Là, on dirait dans ma tête, c'est comme bizarre. Là. On dirait c'est comme s'il avait l'impression qu'il y avait comme une conspiration contre lui, alors qu'il n'y avait pas d'introspection. On passe tellement de temps sur Kotkaniemi, c'est incroyable. Mais c'est comme s'il n'y avait pas d'introspection de comme. C'est de ma faute. C'est ça. Il y a peut-être une partie du blâme, du moins, qui me revient. Là. C'était vraiment comme. c'est pas de ma faute. Puis on se rappelle le premier coup qui s'était fait envoyer à Laval, il avait dit ça aussi. Oh, j'ai retrouvé le plaisir de jouer ici. Puis le coach me fait confiance. Plaisir,
ouais, tant mieux. Je pense qu'il l'a perdu peut-être récemment. Mais tout ça pour dire, on aurait dû repêcher de Tkachuk. Je pense que c'est clair maintenant.
Ouais,
puis je vais continuer avec mon moment de l'année. En fait, c'est pas un moment dans l'année, c'est juste l'année. Le fait qu'il y a enfin des buts qui se marquent dans la Ligue nationale de hockey. Il y a déjà 8 joueurs qui ont 100 points. Puis il y en a 3 autres. Donc, il y a Marner, JT Miller et Panarin qui sont très près aussi, qui vont sûrement l'atteindre.
Marner joue pas, par exemple.
Ah non, hein? Bon, mais pas
Marner. Il reste une game, je pense, puis il joue pas à soi.
Bon, ben bien fait pour lui, comme on dit. Donc JT Miller puis Panarin pourrait peut-être ça va être dur mais on sait jamais, donc je trouve ça le fun pour le hockey, c'est vraiment plus le fun regarder des matchs qui vont finir 5-4, 6-5 plutôt que regarder des parties qui vont terminer 2-0 sauf quand c'est les Canadiens qui gagnent 2-0 comme avec Price. Mais sinon je trouve que c'est bon pour le hockey, c'est bon pour le spectacle, c'est le fun de voir plein de joueurs qui connaissent des breakout season, de voir des Kevin Fiala qui ont un point par match. C'est complètement inattendu. De voir des Johnny Gaudreau qui rebondissent. Austin Matthews qui marque 60 buts. Je trouve que c'est bon pour le hockey qu'on retrouve cette touche offensive-là. Donc, c'est mon moment cette année.
Ouais. Puis JT Miller aurait pu être un excellent candidat pour la surprise de l'année au niveau de la LNH. J'ai 97 points cette année, alors qu'il y a 3 ans, le monde à Vancouver se plaignait de l'échange que les Canucks avaient fait à l'époque en allant chercher du côté de Tampa Bay. Puis,
Miller ne joue pas dans une puissance de la Ligue non plus. Là, je veux dire, Vancouver, ils sont...
C'est ça. Puis il a quand même transporté les Canucks durant la deuxième moitié de la saison. Surtout qu'il faut se rappeler, Elias Pettersson a connu un début de saison très, très, très difficile du côté des Canucks. Puis pour finir là-dessus, c'est que pour vrai... JT Miller, comme Nazem Kadri aussi, ce sont d'autres surprises qu'on aurait pu mentionner au niveau des prix. Mais là, moi, je vais faire mes prix rapidement. Finalement, je vais être franc avec toi. J'avais Kevin Fiala comme surprise de l'année.
Ah, excuse-moi.
mais heureusement, j'ai toujours des plans B. Puis mon plan B... Il n'a pas été souvent mentionné, mais Tage Thompson, du côté des Sabres de Buffalo, il a 37 buts. Il a 37 buts cette saison, Tage Thompson. 67 points en 76 games. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on dirait que comme il passe vraiment sous le radar vu que Buffalo a une saison extrêmement difficile. Puis c'est normal aussi, ils sont vraiment en reconstruction. Mais Tage Thompson, avec l'arrivée d'Alex Tuck, avec aussi le retour de Jeff Skinner, qui lui aussi est redevenu un marqueur de 30 buts. Puis Rasmus Dahlin, qui connaît une autre bonne saison. Puis on voit un début de renaissance du côté des Sabres de Buffalo. Puis il y a Owen Power qui vient d'arriver aussi il y a à peu près 2-3 semaines de cela. Puis je trouve que ça s'annonce prometteur du côté des Sabres de Buffalo parce qu'il faut se rappeler, ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils n'ont pas fait les séries éliminatoires.
J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de garder ça. Tu parles d'un gars comme Skinner. Là. C'est un gars, fait on dirait que je comprends pas. Il y a une saison de 40 buts. Après ça, c'est comme 10-12 buts par année quasiment. Puis après ça, 33 buts. Puis ça, peut descendre l'année prochaine. Comme, on dirait que c'est vraiment une boîte à surprise. T'sais, personne n'attendait cette année. Là. Puis là, il ressort. Puis là, l'année prochaine, le monde va peut-être l'attendre un peu. Puis là, j'espère pas pour lui.
Je sais pas, il est rendu à combien, mais lui, il est sorti de sa tombe, là, je sais pas. Là. Ça faisait combien d'années qu'il avait pas fait ne serait-ce qu'une vingtaine de buts? Hein?
Ah, 21 buts, 24 passes. Là, c'est un gars que je me rappelais même pas qu'il joue encore dans la Ligue nationale, c'est pas pire.
C'est excellent.
Je pense dans la tête de tout le monde, il y a 38 ans.
Ouais, là, ben c'est ça. Mais je crois qu'il n'y a pas ça, 34 ans. Si je
34, ouais.
Ouais, on dit que ses belles années sont tellement loin. Là.
Ouais.
J'allais dire, il n'est pas si vieux que ça. Là. Il paraît, ok, oui, c'est quand même tard dans sa carrière, là, il a 34 ans, là, mais genre, il n'est pas si vieux que ça. Mais là, je vais sortir aussi ma déception. Moi, je vais aller du côté des Islanders de New York. Je vais aller avec Matt Barzal. Parce que Matt Barzal, moi, ça fait des années que j'attends à ce qu'ils produisent comme assassin recrue. Ou qu'est-ce faut, je vais rappeler aux gens, Matt Barzal à sa saison recrue a marqué 85 points. Oui, ok, l'Islander Junior qui était mauvais. Oui, défensivement, c'était laborieux, mais c'était quand même 85 points pour Matt Barzal. Puis on dirait que, je sais pas pour vous les boys, mais moi on dirait qu'à chaque fois, je sais que je me dis, oui, ok, l'Islander Junior, c'est quand même une équipe avec un système de jeu hyper défensif, mais je me dis que Matt Barzal doit beaucoup plus produit que qu'est-ce qu'il nous donne en ce moment, parce que 55 points en 71 matchs, ok, oui, c'est quand même bon, mais avec le contrat qu'il vient de signer, j'ai de la misère à voir ça plutôt, puis je me dis qu'il faut qu'il se réveille, parce que si les Islanders de New York continuent sur la même lancée, ben je pense pas que Barry Trotz peut créer autant de miracles qu'il l'a fait, surtout au cours des trois dernières années, là.
Mais, tu sais, moi, de la façon que je le vois jouer un peu, je pense qu'il y a de la misère à s'établir, si tu veux, dans le système de jeu, dans le sens qu'il a toujours été habitué, je pense, d'avoir un peu plus de liberté offensive, puis, comme, tu sais, vraiment, d'avoir de la liberté, ben, au final, c'est ça, là, ouais, d'avoir de la liberté offensive, puis de pouvoir, comme, être créatif, puis... T'sais, on le voit dans ces statistiques-là. L'année passée, c'est 45 en 55. C'est comme tu dis, là, même cette année, c'est pas mauvais en tant que tel. Là. Mais t'sais, c'est pas des chiffres auxquels on s'attend. T'sais, souvent, quand tu penses à Matt Barzal, tu penses à de la vitesse. Il y a un bon tir, il y a vraiment une bonne vision du jeu, tout ça. Puis c'est sûr que là, mettons, en ce moment, il a joué 10 games de moins, mais il a quand même 5 points de moins que Nick Suzuki jusqu'à maintenant, qui a joué dans la pire équipe de la Ligue. Donc, oui, il y a une certaine partie du blanc qui peut revenir sur le système de jeu, tout ça, mais je pense que ce gars-là doit produire pas mal plus, comme tu dis, parce que c'est de la façon qu'il joue aussi, il a de l'air moins impliqué, je trouve.
Mais faut pas oublier les gars qui, à sa saison recrue, il y avait un certain John Tavares aussi avec lui.
Ouais, c'est sûr.
Que la même année, Tavares est parti, puis Barry Trotz est arrivé, puis le système de jeu est devenu complètement défensif. Avec les deux ensemble... Ça fait ça, mais je suis quand même d'accord que c'est décevant. Je pense que tout le monde attend qu'il éclose et qu'il marque 85-90 points par année. Il y aurait le potentiel pour ça, clairement.
Ben oui, c'est sûr. Ben, moi, je me dis qu'à l'année prochaine ou dans deux ans, il va exploser. Là, c'est question de temps pour vrai. Là, quand, des fois, je le vois jouer. Des fois, il y a des flashs de son jeu. Puis que je me dis, OK, genre, wow, OK, Matt Barzal va vraiment genre step up et devenir comme un des meilleurs joueurs de la LNH. Mais bref. Je suis sûr qu'il va y arriver.
Et il joue avec qui, Barzal? Il joue-tu avec Nelson puis Lee, genre?
Nelson a une excellente saison. Brad Nelson a une excellente saison aussi. Je crois que. Je sais pas s'il est rendu à 40 buts, mais il doit être proche. Là.
Il a 36 buts, 58 points. Mais c'est-tu Anders Lee
qui joue avec eux? Il joue avec Parisi puis Palmieri en ce moment.
Ouais, ça, là, peut-être qu'il était
bon. Palmieri, ça, c'est un excellent candidat aussi comme déception, là, mais. Écoute, il y en a plein de déceptions dans l'NH, et puis c'est logique aussi. Il y en a
juste les Islanders en général, je pense que c'est une année à oublier, puis à part Dobson.
Ouais, Dobson, je pense que ça va être solide.
Dobson, Sorokin, là. À part
C'est ça.
Même Wallstrom, déception aussi pour moi.
Ouais. Bref, l'Islanders de New York, ça peut être une année très facile pour eux. Mais moi, je peux parler de mon moment. Mon moment de l'année, okay, ça va paraître surprenant. Mais c'est Steven Stamkos qui a marqué son 100e point il y a deux jours. Moi, quand j'ai vu Steven Stamkos marquer 100 points, je me suis dit « Wow! » Après toutes les années, après toutes ces nombreuses années de blessures, puis que tout le monde disait comme « Ah ouais, Stamkos est ralenti, puis que c'est plus son équipe, puis que c'est l'équipe à Kucherov, à Vasilevski, à Edman, à Brandon Point, à un point. » Puis, genre, j'étais tellement heureux pour lui quand je l'ai vu marquer puis célébrer, puis comme être content d'avoir eu son 100e point, parce que c'était jamais arrivé dans sa carrière, puis en ce moment, il connaît sa meilleure saison en carrière. Il a 101 points en 79 matchs. Puis je me disais, OK, genre, finalement, Steven Stamkos a sa fameuse saison de 100 points. Parce que oui, il y a plusieurs saisons de 50 buts. Oui, il y a quand même eu plusieurs saisons où il a fini au-dessus d'un point par match, mais il n'y a jamais eu une saison de 100 points. Puis c'est quand même un petit travail acharné qui a permis à Steven Stamkos d'avoir cette saison-là. Puis surtout que pour moi, c'est un des joueurs, un des superstars les plus underrated, les plus sous-estimés de l'histoire de la LNH. Pour moi, comme si c'était pas des blessures, il était peut-être dans la conversation avec Patrick Kane. Genre, je parle pas Crosby et Ovechkin, mais je parle comme genre level de super vedette, mais comme super vedette.
Mais quand tu regardes ça, là, il y a bien beau avoir eu des blessures et quand même à plus d'un point par match. Là, sur une période de 920 matchs, il y a 967 points. C'est incroyable. Là. C'est juste ses retours de blessures ont toujours été successful. Ça n'a jamais mal été. Puis il va topper les 1000 matchs la saison prochaine. C'est vrai, un bon point, il est très underrated. Mais tu sais, c'est sa première saison de 100 points. Là, puis Phil t'en parlait, là, c'est le fun qu'il y a des buts qui sont marqués. Puis tout. Qu'est-ce qui est arrivé selon vous? Parce qu'on voit les gardiens qui font des records au niveau du pourcentage de save, puis tout. Des attaquants qui battent des records, des defs font plein de points. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a plus de jeu défensif.
Moi, personnellement, je crois que c'est parce que les joueurs sont de plus en plus talentueux. Moi, c'est vraiment ça. Les joueurs qui arrivent sont de plus en plus rapides, sont de plus en plus. Ils s'entraînent beaucoup. Leurs tirs sont extraordinaires. On parle de Austin Matthews, Patrick Laine, même Kucherov. Ou en ce moment aussi, moi, Jack Hughes, il commence à exploser aussi. T'es, tous les nouveaux joueurs qui arrivent et tout, c'est comme on dirait, sont de plus en plus talentueux. Puis j'ai vraiment l'impression que le changement de règles aussi a vraiment influencé le nombre de buts marqués. Là. On peut le voir aussi au niveau de la réduction de l'équipement des gardiens de but, que ce soit aussi au niveau des pénalités qui sont un peu plus sévères aussi, surtout au niveau de l'accrochage. Puis plein de facteurs au niveau des règlements qui ont fait en sorte que, pour moi, ça viendrait expliquer pourquoi il y a plus de buts, pourquoi il y a plus en plus de buts au niveau de l'aliénage. Puis c'est une bonne nouvelle aussi. Là.
Puis je pense que, tu sais, un point qu'on peut apporter un petit peu, là, c'est que les équipes cherchent de plus en plus, comme tu disais, d'où le talent, tu sais, les joueurs de talent. Puis, tu sais, fait qu'on voit les nouveaux joueurs, les meilleurs joueurs qui arrivent. Tu sais, oui, il y a Edmund qui est là depuis quelques temps, puis que lui, c'est un size XXXL. Là. Mais, tu sais, les autres, des Kel McCarr, tu sais, si on prend... Girard, des joueurs comme ça, Quinn Hughes, c'est pas des gros formats. Les défenseurs sont petits, sont rapides, sont portés à l'attaque. Fait qu'ils sont portés à l'attaque, ça l'amène plus de buts, mais aussi des contre-attaques. Il y a des, tu sais, je veux dire, le jeu est vraiment plus porté sur l'attaque. Avant, les défenseurs de troisième paire, ton septième, huitième défenseur, c'était des armoires à glace que tu pouvais embarquer un peu n'importe lequel, puis ils venaient fermer le jeu, tout ça. Tandis que, tu sais, si on regarde juste ici à Montréal, les défenseurs 5, 6, 7, 8, c'est des Wideman, c'est des Kel Klag, c'est pas des gros, gros joueurs. Là. C'est, on essaie de trouver des joueurs qui patinent bien, qui peuvent relancer l'attaque, puis ça fait que, évidemment, comme tu dis, avec la règle du cross-check qui part aussi de plus en plus, ben il y a moins de jeux physiques en avant, les joueurs sont plus talentueux, fait trouver un moyen de marquer puis de se démarquer surtout de plus en plus. Je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que vraiment, c'est ça, là, comme il y a plus de tirs, d'après moi. Là, j'ai pas checké les stats, mais on a vu beaucoup de games, ben, surtout à Montréal, mais des games en général avec beaucoup, beaucoup de lancers, tout ça. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que le jeu est plus porté vers l'attaque.
Clairement, là. Mais Phil, tu as rajouté de quoi? La question
la seule chose qu'il a rajouté à ça, c'est un petit peu de hasard aussi, là, un petit peu de bonne chance là, pour que t'sais, Matt Duchesne, Johnny Gaudreau, Chris Kreider, tous ces joueurs-là qui jouent depuis plusieurs années. Nazem Kadri explose à ce point-là. Là. C'est quand même... Je sais pas ce que j'allais dire. Bref. En tout cas, ça prend de la chance un peu aussi là-dedans. Peut-être que l'année prochaine, ça va être un peu moins offensif.
Ben non. Faut que ce soit de plus en plus offensif, man. On aime ça. Là, moi, je me rappelle... en 2015, quand Jimmy Benn a fini meilleur marqueur de la LNH avec 87 points, là, on est vraiment loin là, de ça. Là.
On est
ça,
loin. C'est triste. Là,
genre, lui aussi, il est loin de ça maintenant. Là.
J'en reviens pas qu'il ait gagné 87 points, pour vrai. C'est genre, dans ma tête, c'est genre impossible. 87 points, tu sais, si on... Non, mais si on va juste checker en ce moment, là, ça va être long parce que je t'ai rendu
87 points, t'es loin. Là.
OK, ouais. je l'ai. Là, 87 points, t'es 19e.
C'est ça. Pour que les gars qui ont 100 points, on n'en parle même pas dans le trophée Hart, des trucs de même.
Ouais, c'est fou. Hein? Ouais.
C'est incroyable. Mais là, les boys, rapidement, là, j'aimerais qu'on parle du portrait des séries éliminatoires de la LNH. Ben, bon, maintenant qu'on sait qui vont participer dans ces séries éliminatoires-là, puis qu'on connaît les 16 équipes qui vont participer, ben, on a deux séries officielles qui viennent, qui ont été officiellement annoncées. Puis les deux sont du côté de l'Association de l'Ouest. Puis je voulais savoir, premièrement, on va parler du côté de la division centrale. On sait que les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota vont s'affronter en première ronde. Puis je voulais savoir, je vais commencer avec toi, Jacob, qui est ton favori? Je sais que tu es un grand partisan du Wild du Minnesota et tu en parles depuis le début de la saison, mais est-ce que tu y vas jusqu'au bout avec le Wild?
C'est une bonne question. Là. Je ne me considérerais pas vraiment partisan. Là. C'est plus une révélation cette année, là. Surtout Kaprizov, qui est pour vrai, depuis quelques années, le joueur qui m'impressionne le plus, là, qui est vraiment intrigant. J'en ai parlé pas mal. Je vais y aller. Ils ont tout pour réussir, je pense. Là. Avec Fleury devant les buts, je veux dire, c'était la seule chose qui manquait. Au niveau de la défensive, ça va bien. Spurgeon, Dumba, c'est super solide. À l'attaque, il n'y a rien à dire. Là. Je veux dire, c'est écœurant avec Kaprizov, Fiala. Moi, je pense que oui. Ça va être dur, les Blues, par contre. Les Blues sont très underrated avec Thomas, Kerou, O'Reilly même. Ils ont vraiment une très, très bonne attaque qui est responsable aussi. Ce qui va manquer peut-être du côté du Wild au niveau défensif, là, mais dur de voir.
Ouais, ben les Blues sont vraiment sous-estimés, j'ai l'impression. Personne n'en parle, pourtant, ils ont 107 points, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça, que comme Jack a dit, là, leur attaque est incroyable. On peut rajouter Tarasenko à ça, David Perron aussi, Justin Falk à la défense, qui est vraiment un solide pilier cette année, hein, 16 buts. Je pense que ça va donner une série vraiment explosive. Puis, très, très physique aussi. Hein, les Blues sont toujours capables de beaux jeux physiques, puis ils ont des gros joueurs. Puis, j'ai l'impression que le gagnant de cette série-là va sortir de la division. Ils vont battre l'Avalanche en deuxième ronde. Moi, c'est mon... ma petite impression. Ouais. En ce moment, si je devais aller d'une prédiction, je dirais Wild en 7.
Wow, c'est incroyable, man. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour parler de hot take, mais ça, c'en est un bon hot take. C'en est un. Moi, pour vrai, je vois pas comment l'Avalanche Colorado ne pas se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. C'est leur destinée. Là. C'est leur destinée.
Mais bref. Vous les gardiens.
Ouais, mais même là, ils ont tout, ils ont presque tout. L'année passée, leur problème, c'était Vegas qui était plus physique qu'eux. Puis cette année, ils ont été chercher des joueurs comme Nico Stern ou Josh Manson à la défense.
Cette année, moi, Vegas ne sera pas un problème, en tout cas, ça c'est clair.
Non, Vegas, ça ne sera pas un problème. Sûr.
Non, au moins, ils ont les Conan. C'est...
Mm-hmm. Yeah, ouais. C'est ça, ils ont les Conan, ils ont le gars le plus clutch de l'histoire de la LNH.
Moi je parierais quand juste pour la série, moi je pense que Wild va sortir de la série en 6. Je pense qu'ils vont réussir à gagner la série. Mais moi je parierais vraiment pas contre l'Avalanche en deuxième ronde. Ils ont tellement été dominants cette année, je trouve. Puis tu sais, dans l'Ouest surtout. Là.
Mm-hmm.
Ils ont fini deuxième dans la ligue. Ils sont tellement forts, leur top 6 est vraiment, vraiment fort. Ils ont des joueurs de soutien comme Arthur, puis je pense que s'il y a une année qu'ils peuvent se rendre loin, c'est cette année. Puis sinon, oui, il va falloir regarder devant le filet probablement s'il y a de quoi qui se passe pas bien, qui se rendent pas du moins en troisième ronde. Mais je sais pas comment dire, je pense vraiment que ils ont trop tout pour réussir pour pas que ça fonctionne. En même temps, on dit ça de plusieurs équipes, puis au final, ça marche pas. Donc, on va bien voir. Là. Ça peut pas être l'année de tout le monde anyway. Là. On parle aussi, du moins, je parle des Panthers.
Mais c'est ça, j'allais dire que j'ai la même perception que toi, mais pour les Panthers à Floride, moi, j'ai l'impression que les Panthers à Floride vont perdre en première ronde. Ça, c'est mon master hot take de la saison.
Je comprends pas pourquoi tu dis j'ai la même impression que toi, mais pour les Panthers, alors que je suis en train de dire qu'ils vont se rendre en finale.
Non, ben, je crois que
si tu joues ce game avec écouter avec une oreille.
Tu sais que les Pingouins vont probablement pogner les Panthers, aller voir ces Pingouins gagner.
Ouais, c'est vrai. Mais non, mais pour expliquer, c'est la raison pourquoi je dis que j'ai la même impression que toi. C'est que tout le monde dit que les Panthers de Ferré vont se rendre à la finale Coupe cette année. Puis moi aussi, au final, je pense ça aussi. Comme sur le papier, quand tu regardes, tu dis que les Panthers de Ferré vont se rendre à coup sûr en finale Coupe cette année contre l'Avalanche Colorado. Mais on dirait qu'il y a un blocage quelque part, man. C'est pour ça que je disais ça, là, mais dans ma tête, je pensais que ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas. J'avais écouté, by the way. J'avais écouté, c'est ça le point. Mais aussi, rapidement aussi, avant qu'on termine l'épisode, je veux parler de la série entre les Kings et les Oilers d'Edmonton, puis je veux savoir, puis je vais aller avec toi, je vais te poser la question à toi, Nick. Est-ce que tu penses que Philippe Danault va utiliser son grand talent défensif pour contrer Connor McDavid?
Ben, tu sais, je veux dire, clairement, il serait capable. Tu sais, je veux dire, l'année passée, ce qu'il a fait, c'est absolument exceptionnel. Puis on en a parlé, puis on a eu beau en parler en long et en large. Je pense que c'était encore un peu sous-estimé puisque tout le monde parlait juste de Price. Mais ce que Dano a fait, c'est vraiment fantastique. Je veux dire, tu sais, Marner puis Matthews, ils ont un but à eux deux dans la série, je pense. Fait que, tu sais, il serait capable, mais je sais pas, je sens que ça va être difficile. Puis les Kings, j'ai un petit peu l'impression qu'ils ont joué au-dessus de leur tête cette année, donc j'ai pas l'impression qu'ils vont être capables de passer les Oilers. Mais les Oilers nous ont habitués à des flops magistraux, fait que je pense, sincèrement, c'est drôle à dire, je pense que la série va être serré, mais pas nécessairement enlevante. Je pense que ça va être un peu une série comme flat. C'est mon hot take, si tu veux. Là. Je pense. En tout cas, on va bien voir. Puis si McDavid n'a pas une grosse série, ça va être en grande partie grâce à Dano, j'ai bien l'impression. Mais je pense que Oilers vont passer. Si je devais dire de quoi, là. Ouais. Oilers.
Mm-hmm. Moi, je suis avec toi, Nick. Je pense que les d'Edmonton vont battre les Kings de Los Angeles parce que moi, je pense que les Kings de Los Angeles, j'ai regardé un peu les confrontations des deux équipes, puis Philippe Danault avait un petit peu plus de difficultés contre McDavid cette année. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même assez régulier. Puis on l'a vu, Philippe Danault, l'année passée, ce gars-là, s'il décide de, comme je vais utiliser une terminologie qui est très souvent utilisée au basket, quand un joueur décide de « lock down » quelqu'un, genre, j'ai vraiment l'impression que Philippe Danault a la capacité de lockdown McDavid. Genre, vraiment.
Moi, la seule différence que je vois qu'il pourrait avoir, puis tout le monde la sait, la différence, c'est que Austin Matthews, qu'est-ce qui le fait ressortir vraiment beaucoup, c'est son tir. Tu sais, il a un tir absolument phénoménal. Puis Danault, ce qui a été bon à faire l'année passée, c'est le contrer pour qu'il tire le moins possible.
Mais pourquoi contre l'efficace à McDavid?
Mais c'est sûr, il est vite. Danault, il est vite. Puis Matthews, il est vite aussi. Mais McDavid, c'est un autre niveau. Là. Il est genre super sonique. Là. C'est incroyable. Quand il décide qu'il skate, tu peux pas l'arrêter. Là. C'est comme impossible. Fait que je pense que ça va peut-être être ça qui va jouer en faveur de McDavid contre un gars comme Danault. Puis comme tu disais, justement, Danault, cette année, il a un petit peu plus de misère contre McDavid. Puis je pense que c'est comme le. C'est un gap de vitesse que vraiment personne a dans la Ligue nationale. Là. Donc, je pense que c'est pour ça peut-être que McDavid va réussir à sortir plus qu'un gars comme que Matthews l'année passée.
Mais c'est ça qui est drôle avec les Kings. C'est qu'ils c'est vraiment pas une puissance offensive cette saison. C'est pas une puissance défensive non plus. Ils n'ont pas leur meilleur défenseur en Drew Doughty qui est absent pour le reste de l'année. J'ai de la misère à voir comment ils pourraient gagner la série. Ils ne sont pas super solides devant les buts.
Ils sont plus 4 cette année, c'est quand même drôle ça.
Jonathan Quick, tout le monde l'aime, là, mais il n'est plus le gardien qu'il était auparavant. Il faut dire que les Oilers ont vraiment une grosse faiblesse devant les buts aussi.
mais là, ils ont un excellent tandem.
Smith,
c'est un bon tandem.
C'est un bon tandem dans le
KHL. C'est juste, je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire que les Kings gagnent. Donc, pour cette raison, je veux dire que les Kings vont l'emporter parce que j'ai vraiment pas confiance aux Oilers. C'est l'équipe qui déçoit le plus. Puis Dustin Brown prend sa retraite, puis j'ai l'impression que les Kings vont vouloir gagner une ronde pour lui. Mais sur papier, il n'y a aucune chance que les Kings gagnent. Mais ils vont gagner.
Ouais, on sait jamais. Peut-être que Philippe Danault, il faut le dire, Philippe Danault a quand même 27 buts cette saison. C'est important de le mentionner. Peut-être qu'il va exploser durant cette série-là, puis marquer de gros buts. T'sais. On sait jamais, là.
Sérieux, j'en retiens pas que Danault ait 27 buts. On dirait que ça rentre pas dans la tête.
Danault, là, 27 buts, mais il a quand même toujours bien juste 51 points. Puis c'est rien pour y enlever, là, mais ça ressemble à. Ouais, c'est proche de d'autres de ses saisons. T'sais. Il a tradé des passes pour des buts. Mais peu importe. Oui, c'est impressionnant là, ce qu'il fait là, au niveau de sa capacité à scorer là, qu'on voyait clairement pas à Montréal. Mais je je vois pas ça assez pour les Kings. Là. Je regarde au niveau des points, puis Kopitar à 66 points, après t'as Kempe à 53, Dano à 51. T'es loin d'avoir une superstar offensive là, dans cette équipe-là, puis on sait que Kopitar peut être vraiment dominant. En playoff, j'ai hâte de le voir, mais je vois pas. Ça va être au niveau des gardiens, là, ici, du côté des Oilers, ça choque. Peut-être que les Kings vont passer, mais je les verrais pas passer les Oilers. Puis pour les Oilers, ça serait catastrophique de perdre en première ronde contre les Kings cette année. Pour vrai, je peux pas voir McDavid laisser passer ça.
Non, moi non plus. C'est pour ça que je prends les Oilers le matin, parce que je me dis que si tu as possiblement les deux meilleurs joueurs de la LNH, tu as la même formation, tu peux pas te permettre à chaque année de faire n'importe quoi, c'est résumatoire, puis de perdre, comme l'année passée, en 4 matchs, puis l'autre année d'avant, de perdre dans la ronde éliminatoire contre les Blackhawks de Chicago, qui, faut se dire, les Blackhawks de Chicago n'ont pas fait les séries éliminatoires. N'avaient pas fait des séries éliminatoires depuis 2019. Puis, moi j'ai vraiment l'impression que c'est leur moment. Puis si les Oilers Edmonton perdent encore première ronde cette année, il faut vraiment qu'il y ait une sérieuse remise en question du côté de Ken Allen et de l'organisation. Peut-être qu'il faudrait se départir de quelques morceaux, puis peut-être aussi genre changer, amener un gardien de but. Ça serait catastrophique, moi, je pense. Ça serait catastrophique.
Oui, certainement, mais je vois pas. C'est quel gros changement tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas reconstruire dans le sens qu'ils ont McDavid, ils ont des gars qui sont quand même âgés. Mm-hmm. Qui ont à donner pour un très bon défenseur, Draisaitl. Mais ça va prendre je vois même pas quel défenseur. Là.
Il n'y a pas d'échange un pour un qui se ferait. Ça serait, non, c'est ça. Même, tu as besoin d'un défenseur élite et plus là, pour un gars comme
ça. Ouais, on verra si Philip Broberg se développe, mais ça serait surprenant qu'il vienne d'un top 2.
J'allais dire avant de conclure l'épisode. Le facteur X de cette série-là, à mon avis, c'est Evander Kane. Je pense vraiment qu'Evander Kane peut faire la différence de cette série-là. Depuis qu'il est arrivé avec les Oilers, c'est pas le personnage du siècle, mais tu peux pas dire que sur la patinoire, il ne produit pas et qu'il n'a pas un apport important du côté de Oilers Edmonton. Donc, c'est mon facteur X pour cette série-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, les boys, mais ça pourrait avoir un impact
sûr. Parce que aussi, il peut avoir un impact positif, mais il peut aussi avoir un impact très négatif. Je pense qu'il faut le voir de même aussi. Là. Il peut impacter la série des deux balls.
Mais de toute façon, on verra ça la semaine prochaine, parce que c'est, je pense que ça passe la semaine prochaine que les séries éliminatoires commencent, puis ça va vraiment faire du bien de parler d'autre chose que du Canadien de Montréal qui est pourri depuis le début de la saison.
Ça va t'en revenir de toute façon. C'est quand la loterie? C'est bientôt, je pense.
C'est le 10 mai.
La semaine prochaine?
10 mai. Dans deux semaines plus.
Ouais, dans deux semaines. Ouais, c'est plus dans deux semaines. Moi, j'étais déjà la semaine prochaine. Non, mais les boys, je vous remercie de venir avec moi pour ce premier épisode pour nous à sur réception, qui est l'épisode, qui est l'épisode 61e pour le Club École. Puis, je remercie aussi les gens qui nous ont écoutés. On va se voir la semaine prochaine aussi, parce que ça va être le début des séries éliminatoires, puis là on pourra faire un vrai portrait de tous les affrontements. Est-ce que les Penguins vont finir 8e? Est-ce que Washington va finir 8e? Est-ce que Dallas ou Nashville vont finir 8e du côté de l'Ouest, ou vont finir avec le Colorado? Bref, ça va être vraiment intéressant. Puis au nom de toute l'équipe, je suis Donny Brahim et on se voit la semaine prochaine.
Le tir est la vue!
Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.